Musique. Il est 9h en temps universel, 10h à Paris. Vous écoutez RFI midi à Damas.
Diane Berger.
On se rendra en Syrie dès le début de ce journal, près de 3 semaines après la chute de Bachar al-Assad. La place des Omeyyades dans la capitale est devenue un symbole de la fin du régime. Le dernier grand hôpital du nord de Gaza à l'arrêt, mis hors service par les derniers affrontements entre l'armée israélienne et le Hamas. En Iran, le militant Reza Randan en grève de la faim depuis 6 jours. Il proteste contre sa détention à la prison d'Evin à Téhéran. Et puis les élections ont commencé au Tchad, avec d'abord le vote des 45 000 militaires et 200 000 nomades, avant le reste de la population appelée aux urnes demain. Certains partis politiques accusent déjà leurs rivaux de manipulation. En Syrie, une voiture piégée a explosé à Manbij, dans le nord du pays, faisant des dégâts matériels mais pas de victimes. C'est la deuxième attaque du genre en quelques jours, selon l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La Syrie, où les habitants de Damas possèdent maintenant un symbole de la chute de Bachar al-Assad, à l'instar de la place Tahrir en Égypte, c'est la place des Omeyyades. Mohamed Erami y a tendu son micro pour RFI.
Depuis la chute de Bachar al-Assad, la place des Omeyyades est pleine de Syriens. Saoussen, 20 ans, y vient tous les jours pour danser et célébrer la fin du régime. Abir El y participe pour demander justice contre le dictateur déchu et de meilleures conditions économiques.
La place des Omeyyades était un symbole de la liberté et nous a été volée depuis longtemps. Et là, elle nous est revenue et va redevenir ce symbole.
Depuis 2011, on voulait organiser une marche avec 1 million de personnes, mais on n'a jamais pu. Mais maintenant que Bachar est parti, je dis à tous les Syriens à l'intérieur et à l'étranger, revenez qu'on puisse organiser ce moment avec 1 million de personnes.
Dans la place et ses alentours, des dizaines d'hommes armés, barbus, cheveux longs, visages masqués, ils appartiennent à la nouvelle administration syrienne. Leur chef, Abu Mohammed al-Souni, explique qu'il protège les Syriens présents.
Notre mission est de préserver les institutions gouvernementales et d'empêcher toute atteinte à celles-ci, et arrêter également les voleurs et poursuivre les officiels de Bachar al-Assad et les voyous.
Sous la famille Assad, la place était interdite au rassemblement. Cette zone stratégique est entourée de sièges sécuritaires et des services de renseignement. Mohamed Erami, Damas, RFI.
À Gaza maintenant, les autorités sanitaires annoncent la détention du directeur de l'hôpital de Kamal Adwan dans le nord de l'enclave, capturé par l'armée israélienne après 2 jours de raids intenses sur le centre hospitalier. C'était le dernier grand site encore opérationnel dans le nord de Gaza. Il est désormais hors service selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. D'après l'État hébreu, les locaux ont servi de cachette à des groupes terroristes. Rome dénonce l'arrestation d'une journaliste italienne en Iran, Cecilia Salah, interpellée le 19 décembre dernier à Téhéran. Elle se trouve désormais à la prison d'Evin sans que l'on sache pour l'instant ce qui lui est reproché. Et puis quelques nouvelles d'un autre prisonnier du régime iranien, l'écrivain et militant Reza Randan, incarcéré depuis 2 semaines. Le mari de la célèbre avocate Nasrin Sotoudeh est en grève de la faim depuis 6 jours. Timéo Guillon.
Il est 13h ce vendredi 13 décembre quand la police arrête Reza Randan à son domicile de Téhéran. Cet activiste, condamné en 2018 à 5 ans de prison pour avoir fabriqué et distribué des pins portant le message « Je m'oppose au port du voile obligatoire », n'avait jamais purgé sa peine. Car en Iran, d'après Marzieh Mohebi, avocate iranienne exilée en France, le temps entre une condamnation et son exécution peut durer des années. Selon elle, la décision est utilisée comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des activistes politiques, les dissuadant de mener toute action contre le régime. En effet, selon Nasrin Sotoudeh, l'épouse de l'écrivain, cette arrestation n'est pas sans arrière-pensée, puisqu'une nouvelle loi durcissant les sanctions contre les iraniennes refusant le port du voile devait entrer en vigueur ce même jour. Une loi qui n'a finalement pas été promulguée. Détenu à la prison d'Evine, Reza Randan est donc en grève de la faim depuis 6 jours pour dénoncer les conditions de détention inhumaines dans la prison, entre froid glacial, invasion de punaises de lit et manque d'accès aux soins.
Timmy Auguillon, et pour approfondir ce sujet, vous retrouverez sur notre site RFI.fr un article très détaillé sur la situation de Reza Randan. Les soldats nord-coréens servent de chair à canon en Ukraine. Ce sont les mots employés par Washington pour qualifier les militaires envoyés par Pyongyang pour se battre aux côtés de l'armée russe. Ils seraient au nombre de 12 000, mal préparés, mal équipés. D'après les États-Unis, plus de 1 000 d'entre eux ont déjà été tués ou blessés. Aux États-Unis, à moins d'un mois de l'investiture de Donald Trump, cette fracture qui apparaît au sein des républicains autour de la question migratoire. Des milliardaires du monde de la tech, devenus alliés du parti conservateur pendant la campagne présidentielle, demandent le maintien maintenant des visas H1B. Ils permettent aux entreprises de faire venir des travailleurs étrangers dotés de qualifications spécifiques, un sésame prisé de la Silicon Valley. Mais cette position indigne plusieurs figures du parti qui rappellent que le président élu a fait campagne avec un programme anti-immigration. Il est maintenant 10h06 à N'Djamena, au Tchad, où les bureaux de vote sont ouverts depuis 4 heures pour un triple scrutin législatif, municipal, provincial. Aujourd'hui, ce sont les militaires et les nomades qui votent en premier avant le reste du pays, qui votera demain, la fin d'une campagne marquée par beaucoup de méfiance. De nombreux opposants boycottent d'ailleurs l'élection. À N'Djamena, Victor Moria.
Face aux accusations d'élections truquées, l'Agence nationale des élections, l'ANJE, montre patte blanche et tient à assurer les électeurs de son impartialité. Ousmane Koudangbe Ouzibé, rapporteur général adjoint de l'ANJE.
Aujourd'hui, nous considérons comme des arbitres. Lorsque vous êtes un arbitre sur un terrain de jeu, vous n'êtes pas appelé à soutenir une équipe au détriment de l'autre. Donc vous êtes appelé à appliquer les règles du jeu. Donc nous également, au sein de l'ANJE, nous appliquons stricto sensu, ce qui est prévu par la Constitution et le Code électoral.
Mais certains partis politiques d'opposition accusent déjà leurs rivaux de manipuler les procès-verbaux des élections. Ces PV, comme on les appelle, censés consigner les résultats du dépouillement, sont indispensables à la bonne tenue des élections. Brigombo Ouzibé est rapporteur général de l'Observatoire des associations des processus électoraux au Tchad. Il assure que les 2500 observateurs surveilleront de près cette question des PV.
Nous sommes vraiment attentifs sur la question et nous souhaitons que vraiment cela ne se vérifie pas. Si seulement les autorités arrivent à contribuer à la manipulation des CV, des PV, franchement, cela va sonner le glas de la démocratie dans notre pays.
Avec le boycott d'une partie de l'opposition, l'autre point de vigilance, explique les observateurs, sera la participation. Victor Moria, N'Djamena, RFI.
En Corée du Sud, un rapport du parquet accable le président Yoon Suk-yeol, accusé d'avoir donné à l'armée l'autorisation d'ouvrir le feu au Parlement début décembre quand il a tenté d'imposer la loi martiale. Des propos réfutés par l'avocat du chef d'État, suspendu depuis 2 semaines avec le vote d'une motion de destitution au Parlement. Le président par intérim, son premier ministre Han Duck-soo, a également été destitué hier par les députés qui lui reprochaient d'entraver l'enquête. La viande de la discorde entre la Chine et le Brésil. Pékin lance une enquête sur les importations de bœuf en provenance de l'étranger. Une opération qui vise de fait majoritairement les pays d'Amérique du Sud, d'où vient très souvent cette viande, le Brésil notamment. Cela alors que les relations commerciales entre les deux pays sont de plus en plus tendues, Claire Fage.
Les importations de bœuf ont-elles porté préjudice à l'industrie chinoise de la viande? C'est ce qu'affirment les représentants chinois du secteur. Confrontés à de lourds excédents cette année, la plupart des élevages bovins chinois sont déficitaires. La consommation de bœuf a baissé avec le ralentissement de l'économie chinoise. Les prix de cette viande sont au plus bas depuis 5 ans, alors que dans le même temps, les importations, majoritairement en provenance d'Argentine, du Brésil et d'Australie, ont augmenté de 70%. L'enquête doit durer 8 mois, mais pourrait être prolongée et elle pourrait aboutir à une mesure de sauvegarde du marché chinois, c'est-à-dire à une augmentation des taxes, comme cela s'était produit avec l'orge australien en 2020, lorsque les relations avec Canberra s'étaient détériorées. Cette fois, Pékin pourrait faire coup double en imposant des taxes sur le bœuf étranger, contenter les producteurs bovins chinois et répondre aux taxes que le Brésil a imposées aux câbles et aux produits d'acier chinois.
L'Inde rend aujourd'hui hommage à Manmohan Singh, l'ancien premier ministre du pays, décédé jeudi à l'âge de 92 ans. Des funérailles nationales ont lieu aujourd'hui à New Delhi. Manmohan Singh, au pouvoir de 2004 à 2014, il est considéré comme le responsable du boom économique du pays, désormais troisième puissance d'Asie. Et puis enfin, cette petite révolution au sein de l'Union européenne, le chargeur universel devient obligatoire pour tous les petits appareils électroniques vendus neufs. Autrement dit, tous les smartphones, tablettes ou écouteurs sans fil doivent être compatibles avec un même câble pour être rechargés. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, grand reportage sur RFI.